Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, cette nouvelle capsule de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Et en remarque liminaire, je pense qu'on va devoir vous souhaiter une formidable nouvelle année 2022, même si on est tous un petit peu sur la pointe des pieds ces temps-ci, dès qu'il y a une nouvelle année qui arrive, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va se prendre encore comme réforme du gouvernement stupide, comme atteinte à nos libertés, comme maladie qu'on n'a pas vu venir et
nouvelle
voilà.
et variée, oui.
Donc, sur la pointe des pieds, nous nous permettons de vous souhaiter.
C'était une bonne année. On n'a pas trop d'espoir, mais on n'est pas pessimiste.
On n'est pas pessimiste.
De nature, on n'est pas pessimiste. Donc, on se dit toujours ça peut que s'améliorer. C'est pas toujours vrai. Il y a des cas où ça continue à se détériorer, mais ça ne fait rien. On vous la souhaite bonne et heureuse année.
Voilà, allez. Donc, aujourd'hui, on a décidé de vous parler de deux auteurs fondamentaux qui pourraient sembler éloignés, mais qui ne le sont pas tant que ça. En la personne de Karl Popper, qui était un de ces Autrichiens, encore une fois, de cette Autriche tellement riche qui était avant la seconde. Enfin, il est né en 1902, donc il a grandi entre guillemets au moment où Hitler montait, et de Jean-François Revel. Alors pourquoi ces deux personnes, au-delà du fait qu'ils soient tous les deux des libéraux? C'était des libéraux très différents déjà, qui ont vécu des époques différentes, mais surtout ils étaient tous les deux des forcenés de la liberté. Ils avaient vraiment... Alors, ce qu'a fait Jean-François Revel de très intéressant, c'était de pointer du doigt ce qu'on appelle la trahison des clercs.
Oui.
Et ce que Karl Popper aussi, de son côté, dénonçait, c'est-à-dire cette espèce de super intellectualisation de certains...
C'est-à-dire les outils dont se servaient les clercs pour essayer de mettre les autres en suggestion.
Voilà.
C'est-à-dire ça, en suggestion. C'est-à-dire, les deux sont très intéressants parce que Revel gueule contre le fait que les clercs ne veulent pas voir la vérité. Et Karl Popper dit, mais attendez une seconde, pour que vos thèses soient valables, il faut qu'on puisse démontrer qu'elles sont fausses. Et donc, vous empêchez qu'on le fasse. Donc, c'était très intéressant tous les deux.
Voilà, donc on a ce parallélisme. Et surtout, au-delà de ça, c'était aussi la recherche de ce que Karl Popper, et on va y revenir, appelait une société ouverte. C'est-à-dire une société qui était contre l'appel des tribus, contre évidemment un communautarisme, mais contre surtout ce qu'on voit beaucoup revenir en ce moment, c'est-à-dire les sortes de pensées magiques, et qui quelque part sont une atteinte à tout mode de réflexion intelligent et surtout à tout développement pérenne d'une société construite...
Ouverte. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il disait aussi, on va y revenir, mais il disait aussi que la société ouverte avait des ennemis.
Oui, bien sûr.
Et parce que le titre de son livre, c'était « La société ouverte et ses ennemis ». Et il trouvait, par exemple, que faire preuve de trop de tolérance avec les ennemis de la société ouverte, c'était une erreur fondamentale. Ce qui est quand même une idée intéressante, parce que c'était pas du tout... il faut laisser tout faire aux autres qui arrivent de l'extérieur. C'est qu'il y avait un certain nombre de règles à respecter pour qu'une société ouverte fonctionne, quoi. On retrouve Locke. Et donc, moi, j'ai toujours été intéressé par Karl Popper. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est là, que j'ai écrit il y a quelque temps, qui s'appelait... Un cire surtout ne faites rien. Et la première partie de ce livre, c'est... quelles sont les composantes d'une société ouverte. La deuxième, c'était quels sont les ennemis d'une société ouverte. Et la troisième, c'était des cas d'études, des cas d'école, pour analyser ça. Mais je l'ai fait par référence à Popper, bien sûr, mais aussi parce que je me suis servi dans ce livre des concepts qu'il m'a mis au point. Et bien, j'imagine qu'il y a des popériens purs et durs qui trouveraient que je n'ai pas le droit de me servir de ces concepts, etc. Mais encore une fois, je trouve que le rôle des grands intellectuels, c'est de vous fournir des concepts auxquels soi-même on n'avait pas pensé, et ensuite, on les en prend, et on en fait autre chose. Vous voyez, c'est ça qui est amusant, c'est de prendre le concept et puis de l'utiliser à un endroit où l'auteur lui-même ne l'avait pas mis, mais ça, c'est pas grave. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Donc, pour moi, c'est un auteur extrêmement important parce qu'il est surtout modeste. C'est-à-dire qu'il dit « l'intellectuel doit se méfier de sa propre intelligence ». Si on ne peut pas montrer que votre théorie est fausse, c'est qu'elle est de nature magique ou religieuse, et à ce moment-là, il ne faut pas l'utiliser dans le débat public.
D'ailleurs, il avait gradué, mais on va y revenir, les sciences entre ce qu'il appelait les sciences dures, oui. Enfin, ce qui maintenant est convenu d'appeler les sciences dures, qui, et ensuite, bon, ce qui en fait pour lui n'était pas des sciences, la sociologie, enfin
voilà. Des trucs qu'on ne pouvait pas prouver. Par exemple, il trouvait que les théories de Freud, c'était intéressant, mais qu'on pouvait prouver tout et son contraire avec. Donc il disait, c'est une construction intellectuelle brillante, mais ça n'a, du point de vue scientifique, aucun intérêt. Quoi.
Ravel aussi était très énervé contre Lacan. Ça l'énervait beaucoup, beaucoup. Il trouvait que ça, c'était complètement con et qu'au-delà de ça, ça avait juste permis d'embrumer tous les autres concepts. Donc il disait, alors vraiment, lui...
ils avaient donc une belle façon de réfléchir et en disant, si on peut pas, si moi je ne peux pas prouver que c'est faux, c'est d'une nature de pensée religieuse et ça n'a pas, et le marxisme et tout ça, c'était la même chose, quoi.
Alors revenons un peu justement donc sur Karl Popper. On va commencer par Popper. Donc qui naît en 1902 en Autriche, de parents qui étaient juifs émigrés convertis au luthérianisme, non pas du tout par foi, mais parce qu'ils considéraient ça comme un facteur d'assimilation, et que la population étant luthérienne, il leur fallait être luthérien comme une volonté, encore une fois, assimilationniste. Le père de Karl était avocat en Bohême, et sa mère est docteur en droit à l'université de Vienne, et sa mère était d'ascendance cilicienne et hongroise. Alors lui, il a sa maturité à 16 ans, donc l'équivalent de son bachot. Et puis, il décide de devenir ébéniste pendant un temps. Il a vite arrêté parce qu'il trouvait qu'en définitive, le travail physique était très fatigant.
Comme je suis d'accord avec lui.
Mais entre-temps, il est devenu membre du parti marxiste et il en revient tout de suite en décrétant que, en fait, Marx, c'était une pseudo-science. Et là, il est devenu donc social-libéral et il l'est resté jusqu'à la fin de sa vie. En cela, il est aussi proche de Revel, qui était parti un petit peu de
gauche.
Qui avait
fait un faux départ.
Voilà.
Qui est vite revenu dans les trucs raisonnables.
Et l'autre chose chez Popper aussi, c'est qu'il a appris très tôt à détester le nationalisme qu'il appelait l'horrible hérésie, the dreadful heresy. C'était une de ses bêtes noires, parce que pour lui, le nationalisme pur et dur, bête et méchant, il le considérait comme une possible atteinte à la culture de la liberté. Il faut voir aussi, encore une fois...
C'est le retour de la tribu, hein.
C'est le retour de la tribu. On est dans ce Vienne qui était un terreau de toutes les cultures avoisinantes, donc sa mère qui était silésienne, on avait la Bohème, on avait la Hongrie, on avait tout ça...
La Pologne...
Et tout ça a donné lieu, effectivement, à un terreau d'intellectuels comme on en a rarement connu dans l'histoire.
Tout à fait, ça a été une de ces explosions comme il y en avait eu à Athènes... quelques siècles avant le Christ, etc. Parce qu'il y a des moments où, en effet, il y a des grands esprits comme ça qui, d'un seul coup, apparaissent tous en même temps. Il y a eu la même chose à Édimbourg, à un moment, au 18e. C'est très intéressant.
Avec Adam Smith.
Ouais, avec Adam Smith, et puis il y avait Adam Ferguson, il y en avait tout un tas qui était là. Et c'est très intéressant parce qu'on ne sait pas très bien pourquoi ça se passe. Parce que Édimbourg, c'était quand même un endroit qui était, c'était une belle université depuis longtemps, mais enfin, c'était pas...
Peut-être, alors je pense... Regarde, pour l'école de Chicago, il y a eu la rencontre d'un professeur.
Oui.
Et puis des disciples, et puis quelque part, peut-être aussi des professeurs qui sont tellement excellents qu'ils font plein de petits émules.
Ils créent une école.
Oui.
Ils créent une école, c'est pas impossible. C'est ils créent une école.
En tout cas, pour nous, bien joué sur J'arrête le son. Hein.
Oui.
Donc,
j'avais arrêté le son, mais.
En 1925, il épouse une catholique qu'il a rencontrée à l'université de philosophie et de psychologie où il est lui-même et où il obtiendra en 1928 un doctorat.
Oui.
Pour lui, le mariage, c'était vraiment une rencontre avec une personne intelligente, de même niveau. Sa femme était très intelligente, l'a beaucoup aidé dans ses recherches. Il était assez austère, il regarda toujours d'un œil... un peu judgmental, un peu plein de jugements, les gens qui avaient des maîtresses, qui menaient des vies dissolues. C'était vraiment quelqu'un qui était très ancré dans le travail, le besoin de vivre sa vie comme on doit la vivre. Et il faisait pas la leçon aux autres, mais en tout cas, il ne fréquentait pas ces gens-là.
Je peux raconter une petite anecdote qui amusera peut-être les auditeurs. C'est que j'avais un beau-frère qui était un sujet brillant, qui a été un élève de Raymond Aron, professeur de droit constitutionnel à Bordeaux, etc. Et puis, un jour, il travaillait avec Raymond.
Non, il était avec Jacques Ellul.
mais aussi avec Jacques Ellul, mais aussi avec Raymond Aron à Paris. Et il y a Raymond Aron qui lui dit, Jean-Louis, il s'appelle Jean-Louis, est-ce que vous aimez les femmes? Et Jean-Louis qui dit, oui, j'aime beaucoup les femmes. Et il y a Raymond Aron qui le regarde et qui lui dit, Jean-Louis, vous n'arriverez jamais à rien.
Ça partait à peu près...
Ça, à mon avis, ça devait être une personnalité un petit peu comme Raymond Aron. C'était pas le rigolo de la classe, quoi.
Et c'est vrai que quand on y pense, ça a dû être véritablement terrible pour quelqu'un comme Popper, qui avait des telles pensées assimilationnistes, de voir comment dans une société autrichienne qu'il croyait ouverte, justement, l'antisémitisme commençait à gonfler et de se sentir soudain aussi
et
menacé.
On est revenu en arrière dans l'espace de 10 ans ou de 20 ans au pogrom qui avait lieu en Ukraine, j'en sais rien, c'était des trucs qu'il n'y avait pas eu dans nos pays depuis très longtemps. Quoi.
Donc là, on est à un moment de sa vie, il se rend compte, comme beaucoup d'intellectuels quand même, que l'Allemagne et l'Autriche, ça ne va pas très bien.
Coton.
Et donc, grâce à ses amis que sont Frédéric von Hayek, dont on a déjà parlé, et Ernst Krombrich, il avait obtenu donc un modeste emploi, figurez-vous, de lecteur au Canterbury College à Christchurch. Donc on est en Nouvelle-Zélande.
Ce qui est quand même pas la porte à côté, surtout à l'époque. Il fallait un an pour y aller en bateau. Hein.
Alors, on peut imaginer quand même que partir avec son épouse pour aller à Christchurch, on est en 1900, donc 30, on doit être en 36.
34, oui.
En Nouvelle-Zélande à l'époque, ça a dû être un choc psychologique absolument terrible. Et se retrouver là-bas tout seul, isolé, en simple lecteur, ça a dû être quelque chose.
Mais en plus, il a peut-être appris un peu sur le rugby, mais enfin, parce que Christchurch est la capitale du rugby néo-zélandais. Mais enfin, ça n'a rien à voir ici. C'est une petite préférence personnelle.
Mais en tout cas, ce qu'il y a eu de bénéfique pour nous, c'est que c'est le moment où lui a décidé, devant cette menace totalitaire que représentait le nazisme, de s'écarter de ses travaux à proprement parler scientifiques, oui, et de développer sa pensée pour lutter contre le totalitarisme et contre le nazisme. Et il en a fait, quelque part, l'œuvre de sa vie, de créer ses réflexions sur la société ouverte.
Il y en a pas mal qui l'ont fait à l'époque, parce que Hayek a suivi un truc un peu pareil, Van Mises a suivi quelque chose de pareil. Un type comme Bertrand Jouvenel, dont il faudra peut-être qu'on parle un jour ici, a écrit son grand livre du pouvoir aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, en essayant de comprendre ce qui était arrivé à nos sociétés démocratiques. Donc il y a eu pas mal de grands esprits qui, à ce moment-là, ont émergé. Et si je devais faire une remarque, c'est aujourd'hui, nous sommes soumis à une espèce de nouvelle tentation totalitaire, allez, pour parler comme on veut. Et je vois pas de grands esprits émerger pour gueuler. Je sais pas, mais où sont-ils tous ces gars-là qui à l'époque, sont partis, se sont levés, ont parlé, ont dit des choses. Là, non, on dit rien, on accepte. Donc, il se passe quelque chose qui m'inquiète passablement.
Alors, avant de quitter l'Autriche, il avait déjà publié en 1934, donc effectivement, il est parti en 1934, un livre qui s'appelait « La logique de la découverte scientifique ». Alors, et là, c'est important, tu en parlais déjà tout à l'heure, c'est dans ce livre, déjà, il commence à réfuter la connaissance inductive, selon laquelle une hypothèse scientifique pourrait être validée au moyen de l'accumulation d'observations. Et pour lui, une vérité n'est vraie que lorsqu'elle résiste à l'épreuve de ce qu'il appelait la falsibilité.
C'est-à-dire si on permet à tout moment de prouver qu'elle est fausse.
Voilà,
si il y a un type qui arrive avec un esprit, comme Einstein par exemple sur Newton, il arrive et pof, la relativité change toute la physique. Et donc, on a cru pendant longtemps qu'il n'y avait rien de mieux que Newton, et puis d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui arrive, qui est découvert.
La Terre est plate, mais la Terre est plate parce que quelque part, nos connaissances scientifiques sont telles qu'à un instant T, c'est une connaissance commune. Certitude.
C'est une certitude, mais c'est
et
pas
puis tu arrive.
Un type qui le mesure comme Alexandrie là, avec la taille de la pyramide et tout.
Et tout à coup, hop, toutes ces certitudes tombent.
Donc, c'est-à-dire que lui, il dit que l'observation précède la réflexion.
Mais que l'accumulation d'observations ne peut pas tenir lieu de vérité.
De preuve.
Et que. Une vérité ne peut être vérité qu'à partir du moment où on a démontré sa non-fausseté de toutes les façons possibles.
C'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de montrer que compte tenu des connaissances, elle n'est pas fausse. C'est-à-dire que Ça revient à quelque chose qui m'est très cher, c'est que la vérité n'existe pas, mais on peut s'en rapprocher par des discussions enflammées avec des gens de bonne compagnie qui ne vont pas se mettre sur la gueule pour essayer d'imposer leur vue. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est le débat sur la vérité. C'est pas la vérité, mais ce qui compte, c'est le débat. C'est du débat que naît que naît le progrès, mais pas la vérité.
Alors, en exil, il a aussi écrit par la suite le Misère de l'historicisme en
Oui.
1944-1945. On va revenir dessus aussi sur le concept d'historicisme. Et bien sûr, son chef-d'œuvre, La société ouverte et ses ennemis, dont tu faisais état
Dont je me
ici.
suis servi d'un certain nombre de ces concepts, etc. Mais et alors, c'est très intéressant cette histoire d'historicisme parce que en Occident, à partir de presque d'Hérodote, mais enfin, ça a toujours été la tentation. Quand les gens pensent que l'histoire a un sens et qu'il y a des espèces de répétitions qui se passent,
Ah, donc là,
que
tu parles de l'historicisme.
l'historicisme.
J'allais en parler
Et
plus tard, Mathieu.
par exemple, moi, il y a un type que j'adore, que j'ai lu aussi, qui s'appelle Toynbee, qui était un historien britannique qui expliquait les mouvements de l'histoire par les relations entre les civilisations et les religions. Enfin, c'était un truc, moi j'étais fasciné quand j'avais 25 ans, je le suis toujours d'ailleurs. Et lui, il n'avait que mépris pour ça. Il n'avait que mépris. Donc, on peut aimer deux gars intellectuellement qui ont des approches qui sont complètement différentes. Et être séduit par les deux, c'est pas grave.
Alors c'est assez drôle parce que pour écrire donc ce monument qu'est la société ouverte et ses ennemis, qui lui a quand même pris 5 ans d'écriture et de recherche, il a appris le grec tout seul pour pouvoir lire Platon et Aristote dans le texte, aidé par son épouse Énie qui déchiffrait ses manuscrits et qui les soumettait à sa critique sévère. Et vraiment, pour lui, il recherche les origines des idées et leur développement tout au long de l'histoire, et ce qui a impulsé quelque part les théories, les doctrines, qui a été véritablement, qui
À
ont
l'origine.
été les ennemis de la société de liberté pour lui. Il essaie de retrouver aussi les courants, les matrices de tous les autoritarismes pour quelque part se nourrir de cette histoire et essayer de faire en sorte que ça ne se, comme toujours, que ça ne se répète pas.
C'est-à-dire que là, c'est une notion très importante, qui a aussi été à l'intérieur de l'Église catholique et avec laquelle ils ont essayé de travailler beaucoup, c'est quand vous avez l'argument d'autorité, c'est-à-dire le type qui dit, vous allez faire ce que je dis parce que moi je sais. C'est l'argument d'autorité. Et l'Église catholique a toujours dit, c'est un argument qui est inacceptable, sauf si on cite la parole du Christ. Mais sinon, on n'a pas le droit de le dire, parce qu'un homme ne peut pas imposer à un autre quelque chose s'il ne le sait pas. Enfin, c'est sous le prétexte que lui, il sait que l'autre ne sait pas. Et donc, on retrouve la vieille tradition chrétienne chez ce gars-là, qui est de dire, j'ai le droit de réfléchir à moi-même, par moi-même, sur ce que je sais ou je ne sais pas. Et une fois que je l'ai fait, un autre, n'a pas le droit de me dire ce que je dois penser. C'est-à-dire qu'il refuse l'autoritarisme du sachant. Et on voit bien que ce dont on crève aujourd'hui, c'est de ce retour à l'autoritarisme du sachant. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur la pandémie, etc.
Alors,
C'est très étonnant, quoi.
c'est aussi plus compliqué que ça pour lui parce qu'il pense que dans la nature humaine, on aurait peur aussi, dans une certaine mesure, de la responsabilité qu'impliquerait de gérer notre propre liberté.
Évidemment.
Et donc, qu'au nom de ça, on est prêt quelque part à sacrifier cette liberté pour la donner à autrui, parce que c'est trop. Ça nous fait
Et
trop de choses
surtout
gérer.
si le type qui veut vous prendre votre liberté a les moyens de vous taper dessus si vous ne lui donnez pas. Donc à ce moment-là, on se dit, bon,
Oui, alors ça c'est ce qu'il explique, et d'ailleurs il détestait Marx, mais il disait c'est quand même incroyable que les idées de Marx qui avaient été mises en place pour, à l'origine, faire tomber le capitalisme, aient été appliquées dans un monde où on était dans un monde rural de paysans qui était la Russie, face à un autocrate qui était le tsar, pour ensuite refiler le pouvoir à toute une série d'oukases qui ont fait exactement la même chose.
Bah, c'est un petit
Au
peu ce qui
nom.
s'était passé avec Napoléon. Louis XVI était un brave homme, Napoléon était tout sauf un brave homme. Et après 30 ans d'avoir foutu l'Europe à feu et à sang, on s'est retrouvé avec un nouveau pouvoir. Donc, c'est pas une réflexion sur le pouvoir politique, mais c'est une façon, la façon, seule façon d'arrêter le pouvoir. Totalitaire, c'est par la réflexion individuelle, ce qui est...
Alors, il avait des ennemis de pensée très forts. Hegel était un de ceux-là, c'est-à-dire avec des idées quelque part de pouvoir structuraliste à la source, et pour lui, c'était à peu près ce qu'il y avait de
Et que
pire.
l'histoire avait un sens, qu'il y avait une marche de l'histoire qui était inéluctable, qu'on avançait comme ça.
Et en revenant, Platon, qui pour lui aussi était à l'origine de volonté de construction de société
Parfait.
parfaite, d'homme éclairé, et avec quelque part une certaine idée que la fin justifierait les moyens. Et pour lui, c'était des atteintes directes à la liberté individuelle et donc la société ouverte.
Oui, c'était tout à fait ça. Platon, c'était celui qui disait que la société devait être gérée par des gars qui avaient fait les nains, des rois philosophes.
Ce qu'il appelait les idéologies verticales. Et ça, pour lui, c'était
Affreux.
un grand non. Mais alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens ont souvent cette idée du libéralisme, que ce serait le renard libre dans un poulailler libre, et ainsi de suite. Pas du tout. Karl Popper, c'était quelqu'un, d'abord, c'était plutôt un socialiste dans la pensée, et il concevait tout à fait que dans l'État, il faille des limites juridiques, des limites légales. Et
Et que
il
ceux qui ne
a.
respectaient pas ces limites...
Voilà, il voulait quand même qu'on ait des systèmes économiques complets, avec une éducation publique de haut niveau, des retraites, des assurances chômage, des assurances en cas de problèmes dans la vie. Et bien sûr, ce qu'il appelait, parce qu'il écrivait en anglais à ce moment-là, Equalities of Opportunities, c'est-à-dire pas un égalitarisme, mais une égalité des chances.
Oui, c'était, il se rapprochait de ce qu'on appelait en Angleterre à l'époque le socialisme fabien, c'est-à-dire tout faire pour qu'il y ait l'égalité des opportunités, et puis ensuite chacun se dépatouille pour arriver à ses résultats.
Voilà. Il disait dans ses mots que economic power may be nearly as dangerous as physical violence. Que quelque part, le pouvoir économique que certains pourraient s'octroyer était au moins aussi dangereux que la violence physique.
Ben on le voit très bien aujourd'hui avec ces immenses fortunes absolument incroyables qui ont été faites avec les nouvelles technologies de l'information. Eh bien, on peut dire qu'on n'a plus de liberté de la presse, on n'a plus de liberté de la pensée, on n'a plus de liberté de la distribution. On la trouve ailleurs. Mais donc, c'est en effet des gens qui sont trop puissants. Eh ben, économiquement, c'est pas une bonne chose.
Alors, grâce à son ami Hayek, par suite, il est nommé en Angleterre,
Oui.
à la London School of Economics, et de là, son succès, qui était aussi, de par son livre La société ouverte et ses ennemis, qui a été une immense révélation, il devient aussi membre de la Société du Mont Pèlerin, et il va être nommé ensuite absolument partout, dans
Et
tous
il a
les...
comme élève Georges Soros.
Ah, je savais pas.
Il a comme élève Georges Soros, qui dans les années 60 fait ses études, 50-60, fait ses études à la London School of Economics, et qui a lancé un mouvement, son mouvement de Georges Soros s'appelle Pour une société ouverte, etc. Et je peux assurer l'auditeur que Georges Soros n'a rien compris à Popper. Ou alors il a compris de travers, mais que c'est un. C'est vraiment une trahison de la pensée aussi assez extraordinaire. Donc, ça vous montre encore une fois qu'un grand intellectuel peut complètement être mal compris et trahi par un homme qui lui aussi a trop d'argent pour le bien des autres. C'est-à-dire que Georges Soros, s'il était resté un trader gentil, bon ben, il aurait compris que Popper de travers, c'est pas grave. Mais à partir du moment où il a des centaines de millions de dollars à mettre dans des institutions qui vont défendre les idées stupides de Georges Soros, Georges Soros pensant que c'est les idées de Popper, c'est aussi dangereux que le marxisme.
Voilà.
C'est aussi dangereux que le
Donc ça
marxisme.
revient à ce qu'il disait juste
Exactement.
avant, que quelque part, un certain pouvoir économique peut être aussi dangereux
Dangereux. Tout à fait.
qu'une violence physique.
Une violence physique, parce qu'à ce moment-là, il va chercher à enlever la concurrence, la compétition, à
Mais c'est
enlever la
quelque part parce
discussion.
qu'il n'a pas compris ce qu'était une société ouverte.
Oui.
Sinon, il n'aurait pas fait ça de son argent. S'il avait véritablement compris,
Ou alors,
il aurait fait des...
il a très bien compris, et il se sert de cet argent pour appuyer les endroits où la théorie de Popper est faible, c'est-à-dire par exemple, comment réussis-tu à contrôler les gens qui sont complètement... qui ne veulent pas respecter la loi, par exemple, et qui ne sont pas tolérants dans une société qui ne fonctionne que si elle est tolérante. Comment tu fais avec, si tu as 10 ou 15% ou 20% de la population qui est complètement intolérante? Ben là, Popper n'a pas vraiment de réponse. Hein. C'est l'un des trucs qui est très embêtant.
Alors, Popper avait une classification du réel qui était celle-là. Il disait, en fait, il y a trois mondes. Le premier monde, c'est celui des choses ou des objets matériels. Donc ça va être un monde que tu vas avoir dans n'importe quelle société tribale. Tu vas t'occuper de ton feu, d'avoir des peaux de bête,
d'habiller, de te loger.
Voilà. Le deuxième, c'est le monde privé et subjectif de ta pensée propre. Et le troisième, ça va être les produits de l'esprit. Une société ouverte ne peut être ouverte qu'une fois qu'effectivement, elle est arrivée à se sortir de ce premier monde.
Du deuxième,
parce que la subjectivité de ta pensée n'a pas d'intérêt.
Et en plus, s'il y a une société qui est gérée par des moines philosophes, là, ben à ce moment-là, eux aussi vont avoir une pensée subjective. Et ils vont imposer leur subjectivisme à tous les gens en dessous.
Voilà.
Et donc les types ne peuvent plus penser en dessous.
Donc on ne peut véritablement avoir une société ouverte que dans un monde de troisième société, celle où l'on vivrait de ces produits de l'esprit, produits de l'esprit constamment mis en cause, comme on l'a vu, puisqu'une certitude n'est jamais certitude, et on aurait effectivement une grande bourse aux idées,
voilà.
Avec la possibilité constamment d'avoir des philosophes. Alors un autre truc qui est assez drôle, c'est que lui donc avait étudié la philosophie et la sociologie ainsi de suite à Vienne, et très vite une des remarques qu'il a fait, c'est qu'il disait mais enfin j'ai l'impression que les trois quarts de mes étudiants viennent à l'université pour apprendre à parler comme des universitaires, pas réfléchir, mais à parler de façon prétentieuse, idiote, fat. et il disait, mais enfin, vos idées, vous n'avez aucune idée, mais vous les dites de façon imposante, et vous pensez que ça fait de vous des penseurs. Et c'est assez drôle, parce que c'est un reproche qu'avait aussi Jean-François Revel vis-à-vis des clercs. Et lui, ça s'astreignait véritablement
à
avoir une pensée claire, et surtout ne pas utiliser des grands mots si les grands mots n'étaient pas nécessaires. Et je dois dire, et d'ailleurs il en voulait beaucoup aux Français par la suite, que ce soit Derrida, Bourdieu et ainsi de suite, enfin c'est pareil que Revel, en disant, vous faites exprès de rendre votre pensée mais illisible et incompréhensible, et vous pensez que ça fait de vous des gens intelligents.
En tout cas, ça fait de vous des gens soi-disant intelligents auprès des diffuseurs de culture dont on crève en France, c'est-à-dire des gars qui n'ont pas de pensée, mais qui vont... Si un type est incompréhensible, on pense qu'il a des choses profondes à dire.
Voilà, alors ça, c'était la fameuse séparation de Raymond Aron, qui était de dire, en gros, dans la société, il y a trois strates. Vous avez les créateurs de culture, que va être un Raymond Aron. Vous avez les diffuseurs de culture, que va être l'Express, Le Point, les journalistes qu'ils composent, et les consommateurs de culture, nous. Vous pouvez être à la fois créateur et consommateur de culture, vous pouvez être à la fois diffuseur et consommateur de culture, mais en tous les cas, il ne faut pas confondre dans la vie un créateur et un diffuseur. Et à notre époque, il est certain qu'il y a très très peu de créateurs. On les massacre et on les voit peu. On essaie d'en recevoir ici, des créateurs de culture.
Il y en a quelques-uns.
Et beaucoup de diffuseurs de culture sont pris pour des créateurs et se prennent eux-mêmes pour des créateurs. Et c'est un peu dommage. Enfin, ça ne change pas ma vie. Mais, mais voilà.
Voilà. Donc ça, c'était alors, la grande idée de Popper, quand même, qu'il faut que l'auditeur retienne, c'est que on ne peut pas prouver une vérité scientifique. On peut, et donc la science, ça n'est que de prouver, que de tester des hypothèses qui, pour l'instant, compte tenu de ce qu'on sait aujourd'hui, celle-ci reste la meilleure. Mais donc personne ne peut dire la science. Et là, je voudrais juste faire une remarque, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans toutes ces histoires de Covid ou de réchauffement atmosphérique, on n'arrête pas de nous appeler la science.
Oui.
Mais la science n'est pas arrêtée. Je veux dire, il n'y a aucune raison que ces gens-là me disent « la science dit ceci ou la science dit cela ». La science ne dit rien du tout, elle dit « ce que je sais aujourd'hui, c'est ça ». Mais ce que je sais demain, je ne peux pas le savoir, puisque je ne le sais pas encore. Donc c'est toute l'attitude de la classe dirigeante est anti-scientifique en se réclamant de la science.
Parce que, de fait, pour Popper, la science ne peut pas être un autoritarisme, puisque la science... C'est du débat, et la science n'est jamais la science qu'à un instant T.
Ouais.
Donc à partir du moment où tu es T plus 1, tu n'es déjà plus dans la science.
Non.
Donc une science qui serait autoritaire est une non-science.
Est une non-science. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui.
Et c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les débats sur le Covid, qui nous explique encore une fois que ce serait comme ça. Toute chose qui vous dit ce serait comme ça est par définition fausse. Mais même nos connaissances, je veux dire n'importe quoi, mais aujourd'hui sur le tétanos sont telles. Mais on ne peut pas fermer l'idée qu'on va découvrir quelque chose d'autre plus tard.
Et bien sûr.
Nos connaissances sur le cancer sont à un certain stade, et j'espère...
On va progresser, mais
on
l'idée,
va évoluer,
quand je vois les spécialistes du Covid ou du réchauffement atmosphérique de dire « on n'a plus le droit de discuter, la science a rendu son verdict », c'est une pensée, mais d'abord totalement anti-popérienne, et qui est fondamentalement de nature religieuse. C'est-à-dire qu'on sort de la discussion pour rentrer dans la condamnation de ceux qui ne sont pas d'accord.
Alors, je...
Et by the way, comme on dit en anglais,
oui.
Être libéral, c'est croire ça.
Oui,
c'est
bien sûr.
Ça n'est rien d'autre que croire ça. Le type qui n'est pas libéral, c'est qui croit à des vérités...
Immuable.
Comme sous
Brejnev.
Comme le marxisme, l'horizon indépassable de la pensée humaine, disait Sartre. Et bien si, c'était dépassable, mon grand. Toi, t'es mort, et le marxisme aussi. Mais la liberté de l'esprit n'est pas morte.
Alors, pour faire une transition, je voudrais vous parler de ce livre de Mario Vargas Llosa, qui s'appelle L'appel de la tribu, qui a été traduit par Albert Bensoussan, qui est un formidable traducteur. Qui est un bouquin, bon déjà Mario Vargas Llosa est un auteur que j'apprécie particulièrement, qui écrit de façon ciselée, c'est remarquable, la fête au bouc, si vous ne l'avez pas déjà lu, il faut vraiment le lire parce que c'est juste sublime. La tante Julia et le Scribouillard, j'ai rarement autant ri de ma vie. Et ce petit livre-là recense les grands penseurs libéraux et vous donne une image, d'abord c'est très bien écrit parce qu'il l'écrit toujours avec force, adjectif qualificatif, et ça vous donne vraiment une patine, vous êtes là, vous comprenez, vous voyez l'auteur, et il parle de Popper de façon très pudique, et encore une fois on retrouve ce Vienne de cette époque-là. Alors parmi les auteurs qui sont visés, on a donc Adam Smith, José Ortega y Gasset, Frédéric Van Hayek, Sir Karl Popper, Raymond Aron, Sir Isaias Berlin et Jean-François Revel. Ce qui nous amène donc, sans transition...
Si, il y a eu une transition. Mais ça, c'est en effet, c'est un titre qu'il faut lire, parce que je crois que, si mes souvenirs sont exacts, il avait commencé assez à gauche, lui aussi.
Oui, complètement. De toute façon, il est d'Amérique du Sud, donc...
Il est d'Amérique du Sud, donc il partait
obligé,
mal. Il obligé, puis ensuite, il s'est rendu compte qu'il se passait des trucs à Cuba qui n'étaient pas bien nets. Mais d'abord, il écrit remarquablement bien, et c'est un de ses esprits merveilleux, parce qu'il est libre. C'est-à-dire qu'il découvre des trucs, et quelque part, ça paraît idiot ce que je veux dire, mais il me rappelle Sauvy. C'est-à-dire que Sauvy aussi avait commencé à gauche, et puis il disait aux gens, si vous trouvez dans vos recherches des choses qui infirment ce que vous pensez, il faut les publier parce que c'est très important. C'est les contraires de comment il s'appelle
Piketty.
Piketty ou d'Attali, c'est-à-dire des gens qui ont des vérités, mais qui ne comprennent rien.
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il a justement une plume un petit peu à la Jean-François Revel, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas parfois à piquer, plus gentiment, mais bien sûr, c'est un livre, ça n'est pas non plus une colonne de l'Express, mais c'est agréable d'avoir quelque part des gens qui ont la dent dure et qui
mais
n'ont
avec
pas...
Avec élégance.
Avec élégance, oh, oui, bien sûr.
Avec élégance. C'est ce qu'avait dit ce brave Revel sur Main, qui est quand même une formule qui était un truc merveilleux. Quoi. C'était...
Oui, c'était... Il y a plusieurs façons de marquer l'histoire et de marquer la vie politique. Une de celles-là est de ne se tromper jamais, c'est celle qu'aura choisi Raymond Aron. Une autre est de se tromper toujours avec une constance qui défie tous les instants, et celle-là est celle choisie par Alain Minc. Bon, je crois qu'à partir de là...
Alain Minc, il est rhabillé pour la vie là,
ah
avec
non,
ça.
Mais de toute façon, quand tu prends les décisions d'Alain Minc, il a toujours eu tort.
Bah
ça
oui,
fait 30
Attali,
ans...
c'est pareil...
Ce qui n'empêche pas qu'il est réinvité, qu'il est à chaque fois conseillé d'un tel ou d'un tel. Tu dis, mais ce gars s'est trompé tout le temps, partout. Est-ce qu'à un moment, on va tirer un bilan, un état...
Attali, Bernard-Henri Lévy, il y en a tout un tas comme ça qui, quand même, se trompent surtout depuis toujours.
Et alors, c'est pas tout de se tromper, parce que dans la... Tu peux dire,
mais ils font des dégâts.
Mais non, mais tu vois, un type comme Bernanos, bon, il est parti au moment de la guerre d'Espagne en Espagne, il a décidé de suivre Franco, puis à un moment, il s'est dit, ah mais non, j'ai fait une boulette. Hop, je suis désolé, je me suis trompé. C'est pas grave de se tromper dans la vie, t'as fait des choix.
Il a écrit Les grands cimetières sous la lune, qui était quand même un bouquin incroyable.
Tu te dis, bon bah oui, je me suis avancée sur un terrain, c'était pas le bon, bon ben voilà, arrêtez des comptes. Pas du tout, les autres, ben, qui continuent, et ça recommence. Attali, n'en parlons pas. Bon, enfin voilà, mes petits chats.
On passe à Revel.
On passe à Revel. Donc, Revel, lui, est né, figure-toi, à Marseille en 1924, d'une famille franc-comtoise. Alors, je sais pas ce qu'ils faisaient à Marseille, mais enfin, ils étaient là-bas. Lui-même a été, donc, premier mariage. C'est marrant parce que sa vie a été un peu poussée comme ça, parce que, donc, il sortait avec une petite nana à l'époque, il l'a mise enceinte.
C'est des choses qui arrivaient à l'époque.
C'est des choses qui arrivaient. Donc là, il a deux enfants de ce premier mariage, Mathieu Ricard et Ève Ricard, qui est écrivain. Mathieu Ricard, c'est le moine,
bouddhiste
qu'on connaît. Mais lui, sur le moment, ça le force. Donc, il était normal sup. Il était aussi... Alors, attends. Il était normal sup en 43 et agrégé de philo en 56. Mais du coup, il a été obligé, entre guillemets, ben, parce qu'il avait une famille à nourrir. Donc, il est parti en Algérie enseigner, au Mexique et en Italie.
Il en a tiré des très bonnes pages sur le Mexique et l'Italie. Je savais pas qu'il avait été en Algérie, mais...
Et, ah oui, autre chose, il s'était engagé dans la résistance pendant la guerre. Il faisait partie de ces normales sup, on en connaît d'autres dans la famille, oui. qui s'étaient engagés dans la résistance, alors même qu'ils étaient oui, même à l'école.
Il a fait une page, je me souviens, qui m'avait beaucoup amusé, je crois que c'était dans ses mémoires, où il disait que bon, il était en train de livrer des colis, je sais pas quoi, pendant Paris, pendant la guerre, pour la résistance, puis qu'à 2 heures, il fallait qu'il aille passer son oral pour normal sup, et qu'on lui avait posé des questions sur l'existentialisme, ou je sais pas quoi, chez Kant, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Et donc, il planchait pendant, alors que 2 heures avant, il était en train de foutre des bons ailleurs, quoi.
Oui, c'est ça.
C'était un monde qui était un peu décalé, quoi.
Oui, oui, on devait avoir des grands moments de solitude, quand même, dans ces cas-là. Mais c'est pas mal, parce que dans la vie, je trouve que quand tu sors un peu le nez de ton quotidien, le nez du guidon, ça te donne presque une ironie sur toi-même.
Mais voilà, qui l'a gardé toute sa vie.
Qui te permet, justement, d'avoir l'épaisseur des grands. Déjà de ne pas te prendre au sérieux, parce que tu te dis quand même qu'est-ce que ce concours, ce qui ne t'empêche pas d'être poli et déférent, mais ça te permet de mettre les choses en perspective face à une grande histoire.
Il donnait le nom de son professeur, qui était un grand professeur dans Normal Sup, qui l'interrogeait à l'époque, qui lui posait ses questions. Et donc c'était aussi. Et le professeur, lui, il devait penser que c'était extrêmement important, parce que le jeune Revel vient de lui parler d'un sujet philosophique profond, mais à l'époque, c'était pas. Enfin, si c'est important aussi, donc non.
Non, mais c'est
mais c'est bien de pouvoir faire les deux, voilà.
Ce qui est drôle, c'est de voir comment les esprits fonctionnent. Il paraît que quand Charles Péguy a passé l'agrégation, je crois que l'agrégation, c'est 8 heures oui. Quand tu écris, les 3 premières heures, il dormait. Enfin, en tout cas, il donnait l'impression de dormir. Il se mettait sur sa page, sur ses feuilles, comme ça. Puis au bout de 3 heures, 4 heures, il se levait, il prenait son stylo, il écrivait sans fin, sans réfléchir. Comme ça. Le plan, il devait être dans sa tête. Il ne devait pas dormir, il devait le faire dans sa tête. Et hop, tout à coup, il se relevait, tout était écrit dans sa tête et il se mettait à écrire. Donc c'est drôle comme le...
Il y a le cerveau, je crois qu'on a deux cerveaux.
Le cerveau reptilien, le cerveau...
Il y en a un qui vaut mieux laisser travailler, qui est le cerveau de la création, parce que celui-là, on le maîtrise mal. Donc il vaut mieux le laisser... Il vaut mieux, en quelque sorte, rêver, souvent, quand
mais c'est drôle d'avoir une aussi bonne gestion de soi-même. Non. Moi, c'est de le faire ne me surprend pas, mais de savoir qu'il faut passer par là pour le faire. Parce que la plupart du temps, quand on gribouille sur un plan, oui, c'est sûrement ce qu'on laisse faire au cerveau. Donc, en 1960, il signe le manifeste des 121. Donc là, on est à l'époque de la guerre d'Algérie. Et sa biographie officielle dit que son premier livre fut « Pourquoi les philosophes » en 1957, on va y revenir, mais en vérité, il avait publié un roman avant, « L'histoire de Flore », qui était une histoire voilà, sur le café de Flore, ainsi de suite, qu'il n'a jamais réédité parce qu'il ne le trouvait pas assez bon. Bon. Et cet essai, qui est suivi en 1963 par la Cabale des dévots, révéla justement au monde entier le formidable pamphlétaire, terme qu'il n'aimait pas tellement, mais en tout cas qui était Revel, qui était cultivé, pugnace, ironique, lapidaire, avec des idées extrêmement riches, et quelque part cet esprit rebelle qui a toujours été le sien. Et alors là, à quoi il s'attache dans Pourquoi les philosophes ? Eh bien, à flinguer tout le monde universitaire qu'il a côtoyé de l'époque, et alors il s'est fait plaisir. Alors, tout le monde en prend pour son grade, donc évidemment, lui, ça lui a... Il a été, j'imagine, comme on dit, un peu tricard avec le monde
Il a
universitaire.
été tricard, d'abord il en est sorti, parce qu'ensuite il est allé dans le journalisme, et c'est là où il a rencontré, c'est à peu près à ce moment-là qu'il a dû
Oui.
rencontrer Servan Schreiber, etc., où il est allé dans le journalisme. Mais surtout, moi, ce qui m'a toujours amusé chez Revel, c'est qu'il a cette espèce d'esprit très français qu'on trouve aussi chez Bastiat, ou qu'on
Très
trouve
voltairien,
très
très
voltairien,
voltairien.
très comme Frossard, etc. Il vous fait toute une série de propositions logiques, comme ça, et vous dites oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et paf, il vous amène une conclusion qui est complètement inattendue, mais qui est dans le déroulement parfait de la logique qui était jusque-là. Et j'aime beaucoup cette façon de réagir, parce que c'est une façon, on saute en l'air en disant, mais c'est pas possible, mais si, mais si, mais si, si tu crois ça, voilà ce qui t'amène. Et il s'est servi de cette technique d'écriture toute sa vie, en montrant à quel point tous les gens de gauche, qui étaient soi-disant pour la liberté, et détestaient la liberté. La grande thèse, c'était que la plupart des gens de gauche, en France, haïssaient la liberté de façon mais viscérale. Ils adoraient Platon, et ils détestaient la discussion.
Détester la discussion.
C'est pour ça que, quelque part, il avait des liens très forts avec Popper, parce que lui, il ne vivait que, j'imagine, que de discussion.
Alors, parmi les mille activités de Jean-François Revel, qui effectivement à ce moment-là s'est écarté du monde universitaire pour aller vers un monde de l'édition, de chronique, il a eu mille et une activités, il a dirigé une maison d'édition non conformiste de Jean-Jacques Pauvert, une excellente collection de pamphlets qui s'appelait Liberté, dans laquelle il a pu justement donner libre cours à tous ces. Voilà. L'humour satirique de Jean-François Revel est le plus excité par l'espèce d'étrange alliance qu'il constate à cette époque-là entre le snobisme politique et.
Il y a l'autre qui ronfle.
Oui.
Revel, ça passionne pas. Hein. Mais t'as tort, mon grand.
C'est-à-dire qu'en fait, il se rend compte à cette époque-là que les journalistes de gauche, les penseurs, vont récupérer pour le mieux le marxisme et sinon le maoïsme, et pour en faire des espèces de théories alambiquées. Et l'exemple le plus typique.
Pour prétendre qu'il est maintenant, on peut s'arrêter de penser qu'il y a des gens qui ont trouvé la solution, et que c'était justement Marx ou Mao ou je sais quel ou Cuba, parce que et donc ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces penseurs militent pour une fin de la pensée.
Pour une fin de la pensée, mais alors surtout aussi se servent de la pensée. En tout cas, quand il parle de Barthes et de Derrida, pour dire quelque part, on va se servir de notre façon de penser pour y inclure du maoïsme et servir le prolétariat en mettant à mal la bourgeoisie. Tu dis, mais enfin, la pensée n'a pas une vertu politique. Vous n'êtes pas censé vous servir de ça pour votre agenda,
Oui,
pour votre ordre du jour.
mais c'est là ce qu'on voit aujourd'hui avec toutes les histoires de woke.
Exactement. J'allais venir, c'est en fait les prémices de
Les
ça que
prémices.
Jean-François Revel avait vu.
Absolument.
Quand Barthes dit devant le Collège de France, la langue française est fasciste, la langue est fasciste, c'est le début d'un wokisme.
Absolument.
C'est le début d'un wokisme qu'on constate aujourd'hui et qui est cette espèce.
Et comment peut-on discuter, d'ailleurs c'est ce que disait aussi Popper, comment peut-on discuter si on n'a pas une langue pour discuter? Il dit c'est la différence avec les animaux, parce que nous on peut sortir de l'observation des faits immédiates pour en tirer des concepts qu'on peut ensuite passer aux autres, mais si on n'a pas une langue sur laquelle on est d'accord, ben, on se retrouve tous comme des animaux en train de grogner ou de
D'ailleurs,
ronfler comme
j'y
celui-là.
pense, il avait écrit un très joli texte sur la féminisation, puisqu'il est mort en 96, donc il a quand même connu un peu tout ça, la féminisation des avocats, avocates, et c'est très très bien écrit. Si, alors là, on est bien sûr à notre époque bien au-delà de ça, puisque là, on est dans des prénoms, IEL, les trucs exclus, machin, où tu dois rajouter des ES, mais enfin, là, j'ai grande foi en la nature humaine, en cela, c'est que je pense que l'humain est naturellement paresseux et que naturellement ça va être
Et
tellement
que
fatigant. C'est
là.
déjà tellement dur de faire un accord du COD avec le verbe avoir
Ouais, oui,
qu'on va
ça,
pas
moi
en
j'y
plus
suis
se
jamais allé,
coller
ça.
quoi, des ES, des
Non,
EE, des machins.
je vais dire, ce qui est intéressant dans le langage, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui sort du peuple comme ça doucement, c'est le langage. Ça n'est jamais. La langue, ça vient toujours. Du bas, c'est le charretier qui crée la langue.
Oui, c'est ce dont tu parlais récemment aussi. C'est-à-dire que les changements, là on revient sur des concepts hayekiens, mais que les changements doivent venir quelque part d'un droit coutumier, de la base. Et s'il y en a bien un qui est ça, c'est la langue.
C'est la langue. Alors donc, on va pas faire des trucs plus compliqués parce que ben, la poissonnière sur le port de Marseille, elle va trouver des façons de parler qui ne seront pas...
Et la langue va toujours vers plus de simplicité. Quand on voit, donc, encore une fois, le mot hospital qui, à l'origine, avait donc un S, on a décidé d'enlever le S, de mettre un accent circonflexe. Je ne sais pas si c'était véritablement simplifiant, mais en tout cas, dans la langue, on a la tendance de la langue est toujours allée vers plus d'allègement.
Et les mots qui sont très forts perdent de leur force au fur et à mesure du temps.
On ne les utilise plus. Quand on regarde les adjectifs qualificatifs employés aujourd'hui, on en a beaucoup moins qu'il y a 50 ans. Quand tu regardes des témoignages de l'INA, de gens qui sont interviewés dans la rue, la dernière fois, j'ai utilisé le mot « accorte » pour parler d'une maîtresse. Mais quelqu'un m'a regardé en me disant, quelqu'un de très cultivé, en me disant « je ne connais pas ce mot ».
Accorte, il ne connaissait pas.
Non, il ne connaissait pas, mais bon, alors souvent c'est
une
utilisé...
Une accorte soubrette.
Dans Molière, c'est très souvent utilisé, mais c'est vrai que c'est des mots que tu vas avoir à l'écrit, et je ne me souviens pas de personne l'ayant employé à l'oral, effectivement, dans mon quotidien. Alors j'utilise par exemple aussi « vaquer », ça c'est un terme d'avocat aussi, tu as des vacations, mais « vaquer » pour dire « bouge de là », les gens ne l'entendent pas non plus, ils ne comprennent pas quand tu vas le dire.
Donc
La langue, c'est quelque chose effectivement de populaire et
complètement mouvant. Par exemple, quand dans ma génération, quand j'avais 20 ans, on disait vachement. Tout était vachement, c'est vachement beau. Plus personne ne dit vachement. Non. Ça a complètement disparu.
Alors, sur Jean-François Revel, beaucoup le traitaient de conservateur, comme si c'était un gros mot, va donc et gaulliste. Mais en fait, il était vraiment socialiste et libéral. Et du reste, il s'est beaucoup opposé au général de Gaulle.
Sur la constitution de la 5e, tout ça, il a écrit des choses qui sont prémonitoires, qui sont très bien d'ailleurs.
Et il avait complètement raison.
Il avait complètement raison.
Encore une fois, vous en parlâtes récemment en ce lieu même avec
notre ami.
Ça y est, j'ai un trou, juriste, historien du droit, excuse-moi, j'ai un trou. Et il était farouchement, il est allé aux législatives sous François Mitterrand, il était farouchement athée, anticlérical, et c'était un caton implacable, il était...
Il était farouchement anticlérical, il était farouchement athée, et...
Toujours un peu la lisière de l'anarchisme.
Toujours à la lisière, mais en même temps, il n'a jamais parlé dans les structures de pouvoir qu'il a fort bien décrites, de ce qu'on appelle les fameux réseaux en France, une espèce de réseau de pouvoir dont tout le monde sait ce que je veux dire. Et ça, il n'en a jamais parlé, ce qui m'a toujours beaucoup gêné, parce qu'il ne pouvait pas ne pas connaître leur existence. Et donc...
Il y avait peut-être des amis, et quand c'est tes amis, tu regardes ailleurs, je ne sais pas.
Tu regardes ailleurs, je ne sais pas. Mais là, il y a eu toujours une espèce de zone d'ombre d'un endroit où il n'allait pas. C'est ce qui m'a gêné.
Oui, mais tu vois, des gens comme Philippe Nemo, ils sont allés.
Ils en ont pris plein la tête. Lui, il dit, j'en fais peut-être assez, j'ai pas besoin en plus de me mettre ça sur la tête.
Je comprends que l'on puisse choisir ses batailles.
Ah oui, très bien. Mais lui, il avait choisi les siennes, ça, il n'y avait pas de doute.
Donc, La tentation totalitaire est parue en 1967.
Ça a fait un bruit incroyable.
Oui, et c'était une conclusion remarquable que l'obstacle principal au triomphe du socialisme n'était pas le capitalisme, mais bien le communisme. Et en tout cas, La tentation totalitaire, c'était quand même dans une... Donc on est en 67, on est quand même dans une France où on a encore un communisme, un marxisme très prégnant, surtout dans les médias.
Oui, les quasiment 25% des voix, et puis dominer toute une série de... Non, c'était...
Dénoncer l'URSS, dénoncer Pol Pot, dénoncer...
Ça, c'était avant Pol Pot.
C'était avant Pol Pot, en 67.
Ça a dû être dans les années 70, Pol Pot, mais je n'en suis pas sûr. Mais ce qui avait d'intéressant avec lui, c'est qu'il disait, dans le fond, il n'y a pas tellement de différence entre M. Jospin et Pol Pot. Il n'y a pas de rupture entre... C'est un continuum, c'est-à-dire qu'on passe doucement de l'un à l'autre, et si on donnait suffisamment de pouvoir à M. Jospin, peut-être deviendrait-il Pol Pot. C'est-à-dire que c'est la forme de pensée qui était totalitaire, et c'est là où on retrouve...
Karl Popper,
c'est-à-dire c'était la forme de pensée qui amène à ça, cette espèce de certitude que le gars a qu'il est dans le bon, le vrai et le droit.
Alors il publie aussi en 70 un bouquin rigolo qui s'appelait « Ni Marx ni Jésus ».
Oui, qui a eu un thème à succès mondial.
Où il montre effectivement ce côté débonnaire de libertaire réjouissant.
Et il montre surtout, et il la montre aussi dans plusieurs livres avant, des articles et des livres, il montre surtout que la véritable nouvelle révolution n'allait pas partir du RSS, mais elle allait partir de Californie. Ce qui était quand même un truc bien vu à l'époque, parce que c'était avant mai 68, c'était avant tous les troubles de mai 68 et les trucs en Californie. Donc il a très bien vu que cette espèce de nouvelle société qui naissait en... On est les enfants de cette société aujourd'hui et on en voit les faiblesses. Mais lui, il a vu que la nouvelle révolution partirait, intellectuelle et tout, pour les femmes, etc., partirait de là-bas. Et pas du RSS, pas de Chine, pas de, de.
Alors justement, on va y venir parce que il avait vu, et ça c'est très vrai, que la grande bataille future serait la bataille contre la censure. Et alors, il avait très bien remarqué, il avait dit, voilà, ce qui se passe en ce moment, c'est que le monde marxiste va s'auto-imploser, va s'écrouler sur lui-même, mais toutes les spores sont lâchées, vont arriver de façon détournée. Et on le voit aujourd'hui, ça part dans le wokisme, tous ces anciens marxistes, ça part dans le développement durable.
Le but, c'est toujours d'empêcher l'autre de parler.
Dans le développement durable, et ainsi de suite. Avec cette volonté de censure propre à tout esprit de gauche, en condamnant aujourd'hui, sous le nom d'une pensée de tolérance, en disant « vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça fait de la peine à mon pingouin, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que ça fait de la peine, et au nom de « ça fait de la peine à », maintenant on n'a plus le droit de rien dire. Ça devient une espèce d'autocensure permanente.
Je suis arrivé à la conclusion à la fin de ma vie, enfin pas tout de suite, j'ai encore quelques semaines ou quelques mois à vivre, j'espère. Mais je suis arrivé à la conclusion que la gauche, c'est une maladie mentale. C'est vraiment une maladie mentale, c'est des gens qui pensent de travers. C'est-à-dire qu'ils ont une façon de penser qui les amène à penser que l'autre n'a pas le droit de penser ce qu'il pense. Mais moi, il a le droit de penser ce qu'il veut, le pauvre vieux, c'est sa liberté humaine qui compte.
Et alors, il avait une pensée...
Et qu'est-ce qu'on lui a voulu à Revel d'avoir sa pensée à lui?
Oui.
Qu'est-ce
ah oui,
qu'on
ça,
en a voulu, alors là?
Et puis alors, surtout, il s'est retrouvé une fois... Alors, il en voulait un petit peu à Aaron, parce qu'il trouvait qu'Aaron, quand lui était dans des batailles, se mouillait pas assez.
C'est pas faux.
Et restait un petit peu en arbitre de touche. Voilà. Et que lui, y allait et prenait tous les coups pour tout le monde. Alors, une fois que Sartre n'a plus été là et qu'Aaron n'a plus été là, il s'est retrouvé, malgré lui, en mandarin de la pensée. Et à chaque fois qu'il disait quelque chose, tout le monde attendait, qu'est-ce que va dire Revel, il a dit quoi, et tout. Et il n'avait pas véritablement choisi d'être arbitre des élégances. Donc il y a un moment, il paraît, où ça lui pesait un petit peu dans les années 80, parce qu'il disait, bah, je suis le seul qui reste, d'accord, mais pourquoi moi, Seigneur, pourquoi moi?
Seigneur, pourquoi moi? Loin de moi ce calife. Mais sans vouloir faire des comparaisons indues qui n'ont pas lieu d'être, mais moi, dans ma vie professionnelle, à un moment, j'étais dans une situation où c'était moi qui prenais les décisions pour l'investissement, etc. Et puis, bon, ben, au début, on était plusieurs, puis à la fin, ben, c'était moi qui prenais toutes les décisions. Et je me disais, mais ils sont gentils tous, mais pourquoi moi? Je veux dire, foutez-moi bien la paix, quoi.
Non, mais c'est vrai,
on se retrouve amené parfois dans des endroits où on n'a pas vraiment envie d'être, et à ce moment-là, on est assez malheureux. Et je crois que ça a dû le miner, ça.
Oui, parce que...
Il perdait du coup sa liberté de parole, parce, bah, qu'il
oui,
disait,
parce que
qu'est-ce qu'ils vont dire les autres?
Mais quand les autres te donnent cette responsabilité, et qu'à chaque fois que tu dis un truc, ça fait des ondes de choc, des battements d'ailes du papillon, tu te dis donc, tu as une responsabilité qui t'incombe, donc du coup, tu ne peux plus être le clown heureux qui dit, oh, bah, j'ai un truc à dire, je lève le doigt, et puis je le dis. C'est-à-dire, tes actes ont des conséquences, et lui, la dernière chose qu'il voulait, c'était ça. Il voulait être un esprit libre, et c'était un anarchiste quelque part. La dernière chose qu'il voulait, c'était être la pierre qui tient
l'ensemble
de l'ogive. Ça ne l'intéressait pas du tout.
Exactement. Et puis en plus, ça, si on est dans cette position, on se retourne dans une position où si on se trompe, tout le monde va vous tomber dessus. Mais tout le monde se trompe. Lui, il s'est trompé aussi une ou deux fois, très peu, par rapport aux autres, mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a pu lui mettre, hein?
Et alors, il avait quand même une pensée, bon alors c'était peut-être aussi plus loin dans sa vie, au moment où, oui, parce que j'ai oublié de dire, il s'est remarié après avec Claude Sarraute, avec qui il a eu deux autres enfants, qui pour le coup ont pris le nom de Revel, parce que son vrai nom c'était Ricard, Revel était un pseudonyme. Il avait un avis assez négatif sur la... Alors là, on est peut-être dans un historicisme, encore une fois, que n'aimait pas Popper, mais qui était de dire les démocraties vont mal finir. Les démocraties vont mal finir parce que d'abord, il y a tous ces spores de marxistes qui nous ont...
C'est la thèse de Schumpeter. Hein.
C'est exactement ce à quoi je voulais en venir aussi, qui est un peu la thèse de Schumpeter. Alors Schumpeter, lui, c'est parce qu'il dit que quelque part, on va avoir du middle management qui va s'en occuper. Et ce dont parlait Revel, c'était ce qu'il appelait la trahison des clercs.
Oui, les faux intellectuels.
Des faux intellectuels, c'est-à-dire que quelque part, effectivement, ce n'est pas véritablement l'ENA qui a été le problème, c'est le fait qu'on a créé des gens à l'origine et NARC pour être du middle management et gérer, mais que les décisionnaires devaient être autres sous la 5e. Ça devait rester De Gaulle. Sauf que De Gaulle, il n'y en a plus, et que les clercs qu'on a formés se sont dit un jour, pourquoi pas nous ? Donc on se retrouve depuis les années 70, 68, avec des gars qui sont du middle management, sauf que maintenant ils sont décisionnaires.
C'est ce qu'a raconté Zemmour dans son dernier bouquin, là, qui m'avait intéressé, c'est que Bertrand dit à Zemmour, moi en tout cas je vais essayer de me présenter à la présidente de la République, je sais très bien que je ne suis pas compétent, je sais très bien que je n'en suis pas capable, mais quand je vois les autres, je me dis pourquoi pas moi ? Eh bien, on a créé toute une série de pourquoi pas moi, il n'y en a plus un seul. Autrefois, il y avait des généraux qui sortaient parce qu'on avait eu une guerre et qu'il avait été particulièrement. Tandis que maintenant, si vous voulez, tu regardes Valérie Pécresse et tu mets une jupe à Macron et c'est pareil, quoi.
Donc, lui, en définitive, ce qu'il se disait, c'était que la seule façon pour la démocratie de conjurer le danger qu'il signalait, ça serait de renoncer presque au droit de critiquer, au contrôle du pouvoir, au pluralisme, à la société ouverte. Et peut-être que là, tu vois, en tenant tout, on pourrait s'opposer à une société de dictature. Mais ce faisant, on devient une société de dictature.
Ce faisant, on est une société de dictature.
Donc, il ne voyait pas véritablement comment ne pas devenir une société de dictature où la liberté d'expression serait mise à mal. Et force est de constater qu'aujourd'hui, quand tu regardes, donc il est décédé en 96, 20 ans après.
Il est mort il y a 20 ans, moi j'ai l'impression que c'est.
Attends, 96, qu'est-ce que je dis ? Non, 15 ans.
Oui.
Ça paraît un autre monde. Tellement on est allé vite, dans la connerie.
Tu sais qu'il est mort en 96 ?
Oui, il est mort en 96, attends.
Parce que moi j'avais l'impression qu'il était mort dans le 2005-2007, par là.
Attends, je vais te dire ça. Je sais pas pourquoi, si j'ai 96 dans ma tête, c'est que j'ai dû le lire, ayant une mémoire visuelle. 2006.
Ah bah tu vois, 10 ans. Moi j'avais l'impression qu'il était mort, parce qu'on avait fait un papier sur lui, l'Institut des Libertés existait déjà.
Oui, tu as raison.
Du vieux lion, ou je sais plus quoi.
C'est Karl Popper qui est mort en 94.
Voilà.
J'ai dû me prendre les pieds, donc 2006-94.
2006, c'est pas grave, donc il a vu le début de cette...
Et son dernier bouquin, qui était Le Voleur, qui était ses propres mémoires
dans la maison vide,
était... Ah bah c'est celui-là, c'est ses mémoires qui étaient parties en 97, ce qui était son dernier, Le Voleur dans la maison vide.
C'était bien aussi.
Et...
Qui était triste, qui était mélancolique. Mais Revel, pour moi, c'était... parce que là aussi il faut garder un droit de critique, c'était un très grand esprit, mais il a cédé un peu à la facilité, c'est-à-dire qu'il disait par exemple regardez, ça ne marche pas, les sociétés socialistes ne marchent pas, les communistes qui arrivent au pouvoir, ça se termine toujours par des camps de concentration avec des gens, que ce soit au Cuba, que ce soit au Vietnam, c'est toujours le même scénario, ça se passe, donc il y a quelque chose qui est profondément vicié, etc. Mais il n'a jamais fait l'effort qu'avait fait un peu Raymond Aron ou Jacques Ellul de comprendre pourquoi le capitalisme marchait. Il disait « les autres ne marchent pas ». Mais lui, il ne s'est jamais fatigué à expliquer quel était le mécanisme qui était dans le fond le mécanisme darwinien où tu élimines les boers. Il ne l'a jamais identifié comme étant la source du... Donc moi, ce qui me gênait chez Revel, c'est qu'il disait toujours « Regardez, leur truc, ça ne marche pas, mais regardez, ça ne marche pas, mais regardez, ça ne marche pas. » Et c'est vrai que ça ne marchait pas. Mais il n'expliquait pas pourquoi l'autre marchait.
C'était déjà pas mal à l'époque d'avoir quelqu'un qui
tape
sur le marché.
Surtout les exemples abondés, on avait tout ce qu'on voulait, là on avait tout très bien.
Et que toute la presse de l'époque encensait à chaque fois le marxisme, le village Potemkin.
On se rendrait toujours pareil.
Et on n'a jamais eu d'ailleurs de retour en disant oui, on s'est trompé, on n'aurait pas dû.
Non, ils ne sont jamais trompés, c'est simplement qu'ils n'en ont pas tué assez. 100 millions, c'était pas assez. 200
millions. Non, mais de la part de nos journalistes, de tous les...
Non, les journalistes, ce qu'on dit, ce que chacun sait, c'est qu'en France, il y a deux sortes de journalistes, ceux qui sont honnêtes et ceux qui ont un travail, quand même. C'est un peu...
Donc, écoutez, en tout cas, je pense que là...
Pouvez lire les deux, mais il y en a un qui est facile à lire, c'est Revel. Un qui est difficile à lire, c'est Karl Popper. Donc,
non, mais Revel, ça se lit.
Ça se lit pour le plaisir
du style.
Ça se
lit comme un pain au chocolat. C'est une chouquette. C'est juste extrêmement agréable à lire. Et puis, il est incisif. Voilà, c'était des très bonnes chroniques. Maintenant, Karl Popper, c'est une pensée beaucoup plus profonde. Bon, en plus, c'est traduit de l'anglais, voilà, c'est beaucoup moins léger à lire. Et encore une fois, si vous voulez vous faire plaisir, je recommande, hein, j'ai pas d'action, L'appel de la tribu de Mario Vargas Llosa, qui reprend très bien ce que nous vivons actuellement avec l'appel de cette tribu Wok et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Écoutez, j'espère que tout cela vous aura intéressé. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Merci encore pour notre super dodo pour le chien qui décide que c'est beaucoup mieux, hein, le DAF, d'être sur le sol qu'autre chose. Et puis, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter
avant
de rendre...
Non, je voudrais simplement dire qu'on fait ces chroniques sur les grands esprits qui nous ont frappés les uns les autres, parce que dans le fond, elles ont vocation à rester sur notre site. Alors bon, s'il y a des jeunes étudiants qui un jour se disent « mais qui c'était Hayek ?» ou il y a un professeur qui leur pose des questions, ils peuvent aller, ils peuvent les regarder tranquillement. C'est un petit peu comme un livre sur le rayon d'une bibliothèque. Vous allez, et puis ça vous donnera peut-être des idées, ça vous plaira peut-être. C'est pas quelque chose qui a vocation à être instantané, quoi. On vous parle un peu de nos expériences de lecture, quoi, voilà, et ce qui a eu de l'influence sur nous. On pense que ça peut vous intéresser, ben voilà, j'espère que c'est le cas.
Voilà. Eh ben, merci à nouveau de nous avoir suivis. Et encore une fois, on va vous souhaiter, autant que faire se peut, une très bonne année 2022.
Et merci la prochaine beaucoup. Fois, on va peut-être essayer de vous parler de ce que c'est une banque et à quoi
oui,
ça sert.
Parce qu'on essaye d'alterner sujet économique pur et dur avec les grands auteurs
du libéralisme.
Parce que la banque,
c'était très utile.
Voilà, donc on va parler la prochaine fois des banques, parce que Charles y tient beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt.